Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'homicide involontaire. C'est quoi l'homicide involontaire? Est-ce que c'est punissable par la loi? On peut donner un exemple. Il peut arriver qu'un conducteur renverse quelqu'un et que cette personne meure, alors que le conducteur n'avait pas l'alcool dans les sangs, qu'il n'avait pas commis des fautes particulières, et il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a une sanction pour ce genre d'accident? Peut-on s'en sortir sans peine? Eh bien, nous allons parler de cela aujourd'hui avec notre invité, Ruffin Louco, juriste et chercheur et écrivain. Maître Ruffin, bonjour.
Bonjour, merci. Voilà, vous vous êtes adapté.
Je me suis adapté. Hein.
Tout à fait.
Voilà, à la nouvelle configuration.
Voilà.
Alors dites-nous, comment la loi définit l'homicide involontaire?
Alors, merci beaucoup, Jody. On commence d'abord par planter le décor, comme toujours. Hein, parce
bien
que ici, n'est-ce pas, c'est une sorte de petit cours, de petits enseignements.
Voilà.
À format simplifié.
Bien.
Alors, le petit décor, c'est que homicide, de l'étymologie, signifie donner la mort. Il y a là cide, tuer, homme, humain. Donc ça veut dire homicide, ça veut dire donner la mort.
Mmh. À un être humain. Oui.
Il faut recadrer, donc c'est être humain. Alors là, vous demandez, que dit la loi? Alors, notre loi s'appelle code pénal. Ce code pénal est divisé en deux livres.
Mmh.
Le premier livre concerne les principes généraux, les peines. La peine de mort, la peine de travaux forcés, la peine de prison, la peine d'amende, tout ça. Et le deuxième livre concerne les infractions, en particulier la nomenclature des infractions.
Oui.
Alors, si vous voyez notre code pénal, vous verrez que la première infraction qui est instituée, donc la première interdiction que pose notre code pénal, alors il faut d'abord signaler que tous les codes pénals du monde, eh bien, pour la plupart, puisent leurs origines, leurs inspirations des livres sacrés. Alors, parmi les livres sacrés les plus importants, il y a le Coran et la Bible. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que la première interdiction, vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, la première interdiction que Dieu a donnée à son prophète, ou que Dieu a donnée à Moïse,
ne tuez pas.
Donc, première interdiction. Alors, lorsque vous voyez, c'est comme le dit le professeur Akele, la nomenclature axiologique, ça veut dire l'importance des valeurs que nous protégeons. Donc la première valeur, c'est ne tuez pas. Alors l'article, donc la première infraction que pose le code, c'est l'homicide interdit. Ça commence à l'article 43 jusqu'à l'article, n'est-ce pas? Et c'est le titre premier, les infractions contre les personnes. Donc c'est-à-dire, les premières infractions qui sont protégées, ou la première valeur qui protège notre code, c'est la vie de la personne.
Alors,
il ne faut pas tuer.
Alors, il ne faut pas tuer. Alors, partons de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un conducteur qui renverse un piéton et après, la personne décède. Il n'avait pas l'intention
de tuer.
Il n'avait pas vu. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est dit?
J'étais en train de poser le décor. Ça veut dire, la loi dit ceci. Lorsque vous tuez sans avoir l'intention de tuer, eh bien, vous avez commis un homicide involontaire.
Oui.
Ça peut être par imprudence ou par négligence. Et le fait que vous avez eu l'intention de tuer, la loi dit, si là c'est involontaire, le suivant c'est, lorsque l'homicide est commis avec l'intention de donner la mort, celui-là est qualifié de meurtre. Lorsque le meurtre, lui, a été commis avec préméditation, il est qualifié d'assassinat. Tout cela, selon la loi, sont punis de mort.
Même l'homicide involontaire.
Alors, ça c'est sur les deux, le meurtre
et l'assassinat.
Oui. Alors, s'agissant de l'homicide involontaire, c'est-à-dire d'avoir donné des coups sans pourtant avoir eu l'intention que ces coups-là puissent apporter la mort.
Alors, un homme qui donne des coups à sa femme enceinte et après...
Voilà, c'est l'article 48. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement,
oui,
mais sans intention de donner la mort, l'homme pourtant causé, le coupable sera puni d'une servitude pénale de 5 ans à 20 ans et d'une amende.
Et c'est la même chose pour les conducteurs qui renversent le
piéton. Voilà, donc ça, c'est le conducteur en renversant a donné un coup. selon la loi. Le renverseur a renversé la personne. Son véhicule a donné un coup à la personne et la mort s'en est suivie. Mmh. Donc, et là, les chapitres d'accidents de circulation, c'est encore très courant. Et lorsque vous lirez dans les livres ici, parce que tout ce dont nous parlons se trouve dans le livre de droit pénal ici, vous verrez que nous avons cité beaucoup de cas. Par exemple, la jurisprudence a déjà condamné dans notre pays quelqu'un qui, on lui a remis le véhicule pour réparer le frein. Il a pris l'argent et il a fait semblant de réparer, lui qui n'a pas réparé. Dit non, le véhicule est déjà terminé, vous reprenez
vous
votre
pouvez,
véhicule.
J'ai fait le rodage,
j'ai fait le rodage et tout ça.
tout alors, marche,
fait. Oui. Alors le propriétaire du véhicule reprend son véhicule, commence à rouler et il essaie de, n'est-ce pas, de tester, de prouver son véhicule.
Oui.
Et pouf,
vite un accident arrive.
Et l'accident arrive, les freins n'ont pas été réparés. Alors lorsqu'on vérifie, on fait l'expertise, on constate que non, les freins n'existaient pas, donc n'avaient pas été réparés. L'auteur de ce meurtre-là, le responsable, ça sera le garagiste, qui n'a pas réparé le véhicule, donc, parce qu'on lui a remis pour... Donc bref, c'est celui-là qui a été condamné. Donc, pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne l'homicide involontaire. On a déjà condamné également une maman qui était en train, n'est-ce pas, de préparer et a laissé de l'huile chaude.
Et son enfant
et les enfants en train de tourner autour de
l'huile.
En train de tourner là-bas. Et il est parti et raconter des histoires. Et il a pris beaucoup de temps là-bas. Et est revenu.
En train de causer avec la voisine.
Et comme toujours. Il est revenu, l'huile, les enfants ont joué, ont connu la brasero, le brasero. Puis, mort, ça n'est suivi. Cette maman a été condamnée. Non, ça c'est une imprudence selon la loi inacceptable. Il y a beaucoup de cas comme ça. Nous, il y a également les homicides.
Mais toutes les mamans ne vont pas causer avec les voisines. Hein,
oui, mais bon, il n'est pas avec les voisines. Pas nécessairement avec les voisines, elle peut même aller au marché. C'est une imprudence. C'est-à-dire, si vous devez aller au marché, vous prenez votre casserole et vous la descendez. N'est-ce pas?
Oui.
Et vous. Et donc, bref, vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas d'enfants dans les environs.
Voilà.
Donc,
c'est... Non, mais si c'est arrivé, donc vous êtes aussi coupable.
Vous êtes aussi coupable. Et là, c'est décès.
Domicile.
Ah, oui, domicile. Involontaire. Par imprudence ou par défaut de prévoyance. Donc,
et là, vous avez 5 ans de prison.
Oui, évidemment. Par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud avec Petrolius, qui est présumé avoir mis fait à la vie de sa petite amie.
Sa petite amie, oui.
Alors, ils étaient dans la chambre, et puis c'était le jour de Saint-Valentin, et pouf, on a entendu des coups de feu, et quelques minutes après, on l'a vu lui-même sortir avec le corps sur l'épaule. Alors, lui, il a monté un alibi, que non, il a senti un cambriolaire entrer dans la chambre.
Et il a
pris l'arme pour tirer sur le cambriolet,
oui.
Et il s'est rendu compte qu'il venait de tuer sa femme ou sa concubine. Voilà, donc ça c'est le système de défense. Mais évidemment, en ce qui concerne cet homicide-là, les SMS, les voisins, donc les témoignages, les indices ont démontré que non seulement nous avions entendu des coups de cris de secours et consorts. Donc ça au moins, le juge, et nous sommes en train de suivre, vous et nous, la situation de ces cas-là, le juge risque de démystifier la personne à lui démontrer que non, vous aviez tué, n'est-ce pas,
avec c'était volontaire.
C'était volontaire. Et là, ça devient un meurtre, selon notre code pénal, ça devient un meurtre. Mmh. Et c'est chez nous, c'est puni de mort. Parce que nous sommes encore dans le régime, n'est-ce pas, des pays qui condamnent encore à la peine de mort. Parce que même s'il y a un moratoire qui a suspendu l'exécution de la peine de mort,
oui.
Eh bien, chez nous, on continue à condamner notre justice. Des droits communs et justice militaire, nous continuons à condamner les gens à la peine capitale. Et la plupart de nos prisons sont pleines de condamnés à la peine capitale.
Qu'est dit la loi congolaise à propos de l'homicide involontaire? On en parle aujourd'hui avec Maître Ruffin Louko, juriste, chercheur et écrivain. Nous avons un premier auditeur en ligne, Godefroy Chitoko, qui nous appelle des Kananga dans la province du Kassai occidental. Vous voulez également participer? Le standard est ouvert. Composez le 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Godefroy Chitoko, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité maître Ruffin Louko.
Vous écoutez.
Oui, j'ai une petite préoccupation monsieur le journaliste.
Oui.
J'aimerais que l'invité puisse me donner la différence qui existe entre un homicide involontaire, un assassinat et un meurtre. C'est l'unique préoccupation que je vais
faire. D'accord, merci. Maître Huffan.
Oui, mais très rapidement, on l'avait déjà dit, l'homicide, c'est la mère de tous. L'homicide, du meurtre, l'assassinat, tout ça, ce sont des infractions. En France, en Belgique, on appelle ça des crimes qui ont comme conséquence de donner la mort. Tous. Homicide, je vous ai donné même l'étymologie, donc vous n'avez pas commencé l'émission avec nous. La différence maintenant, la loi pose la différence en disant que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Lorsque vous avez tué et qu'il est établi que vous aviez l'intention de donner la mort, de tuer. Comme il a fait ça, moi aussi je dois tuer. Vous avez exprimé l'intention, d'une façon ou d'une autre, de donner la mort, eh bien ça c'était meurtre. Vous aviez donc l'intention de tuer. Lorsque ce meurtre-là a été commis, la loi dit, avec préméditation.
Donc vous avez monté les stratégies, le temps de monter les stratégies.
Vous avez tout le temps, tout le sang-froid
pour organiser
oui. les étapes, les scénarios, acheter l'arme ou si c'est une machette. Si vous
piéger la personne,
l'attendre dans un guet-apo et consort, eh bien, ça c'est un assassinat. Et notre loi dit que tout ça sont punis de la peine capitale. Donc, et vous allez me poser la question de savoir comment alors saura-t-on que la personne avait l'intention.
Voilà, ça,
comment on doit savoir ça, que la personne avait l'intention. Évidemment, la jurisprudence de notre pays a déjà donné les signaux essentiels. Comment on saura que la personne avait l'intention? Alors,
pour les cas, par exemple, d'homicide involontaire, un mari qui bat sa femme ou deux personnes qui se battent et puis l'une
a mis fait à la vie de l'autre. Alors, comment saura-t-on qu'il y avait l'intention de tuer?
Oui.
La loi parle, la jurisprudence, la Cour suprême parle de l'arme utilisée. C'est la première, le premier indice. L'arme utilisée, le premier indice, c'est donc l'arme qu'il a utilisée. Donc ça sera un élément qui va vous permettre que non, il avait l'intention de tuer. Deuxième indice, c'est l'endroit visé. L'endroit visé. Et lorsqu'on parle de l'endroit visé, moi qui fais les sports, notamment la boxe, nous apprenons qu'il y a des endroits dans la boxe, si vous administrez un coup à cet endroit-là, mort s'ensuit
un coup fatal.
On appelle ça mort subite. Donc, c'est signe que si un coup est administré à cet endroit-là, et si vous êtes peut-être poids lourd, poids moyen, poids Walter ou poids mi-lourd, eh bien, ce coup-là, s'il arrive,
mais c'est un coup fatal.
La personne n'est pas. Ouais. Alors, donc, l'endroit, il y a des endroits sur le corps humain, si vous avez visé cet endroit-là, eh bien, vous n'aviez pas l'intention de corriger la personne. Vous voyez?
Alors là, les juges,
considèrent que non. C'est la preuve que vous aviez l'intention de tuer. Par exemple, lorsque vous vous battez, vous êtes en train de vous battre, un duel, vous entrez dans la maison, vous prenez une machette et vous frappez le cou. Et la personne en est décédée. Vous ne direz pas que non, je m'excuse, je n'avais pas l'intention de tuer. La machette et le cou, eh bien, et voilà. Vous prenez un fusil de chasse. Ou un fusil de guerre ou une arme de guerre. Eh bien, l'arme de guerre. Si vous tirez dans les jambes, on dit non, ok, peut-être. Dans les jambes,
non,
ou dans
pour la formation.
Pour la formation, quelque chose comme ça.
Oui.
Mais si vous tirez dans les endroits sensibles du corps, que je ne veux pas citer ici, les gens le savent, avec un fusil, eh bien, n'est-ce pas?
Il y avait l'intention de tuer.
Vous visez la tête, vous visez tout ça, vous aviez l'intention de tuer. Donc, bref, l'intention de tuer rend l'homicide maître. Et lorsque le meurtre a été prémédité, et la même Cour suprême a déjà, la nôtre, a déjà prévu que pour que la personne puisse préméditer avec froideur et sans froid, il faut au moins, plus ou moins, 24 heures. Donc, ça, qui est une soirée qui se soit passée pour qu'il ait tout l'état, tout le sang-froid. Parce que ces personnes-là qui a appris qu'on a tué son frère et ou son père ou sa mère ou ceci, cela, et qui prend aussi la machette pour aller se venger, n'a pas eu l'état suffisant pour préméditer. Donc, il a eu l'intention seulement de tuer, mais pas l'intention d'assassiner en termes d'avoir prémédité. C'est-à-dire, la colère qui l'envahit par l'information qu'il a reçue.
Oui.
Eh bien, le pousse à les tuer.
Alors, dites-nous, maître, quelle est la procédure à suivre pour saisir le juge en cas d'homicide involontaire?
Alors, l'homicide involontaire, nous avons dit, ce sont les différents tueries
lorsque les personnes n'avaient pas l'intention de tuer. Et souvent, les cas les plus nombreux, ce sont les accidents de circulation. Les cas les plus nombreux, ce sont les accidents dans l'exercice de l'art de guérir, les médecins. En ce qui concerne les avortements, l'accouchement, une erreur médicale. Oui. Il n'avait pas l'intention de tuer, mais il a été maladroit, il a été imprudent et il a tué. Souvent, soit à l'accouchement, souvent dans la perfusion. On a déjà condamné à Lubumbashi une infirmière qui on lui a demandé, n'est-ce pas, de surveiller la perfusion.
Elle a eu sommeil.
Non, elle est partie tresser sa collègue dans la cellule à côté.
Et abandonnant le malade.
Le malade me dit non. C'est toujours comme ça.
Oui.
Alors, elle est en train de tresser sa collègue et la perfusion s'est épuisée, lui n'était pas. Et on sait que la perfusion s'est épuisée, le malade était déjà endormi. Et les médecins, les infirmiers savent que lorsque la perfusion s'épuise et qu'il n'y a personne, ça a toujours entraîné souvent l'arrêt cardiaque si on n'a pas surveillé. C'est pourquoi les médecins insistent toujours. Infirmière, surveilleux, les malades.
Oui.
C'est pourquoi on demande que nous les perfusions.
Elle a été condamnée pour homicide involontaire.
Involontaire, ça veut dire par imprudence. C'était trop imprudent qu'elle se permette, en tant qu'infirmière, de ne pas surveiller les malades, d'aller tresser. Et les témoins ont été entendus, notamment celle qui était en train de tresser, que non, elle était en train de mettre. Donc, bref, celle-là a été condamnée. Donc, bref.
Alors, je disais, ma question était de savoir la procédure. Pour saisir les juges. Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir patient Paul de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission. N'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous 081-890-63-94. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute.
Voilà. Oui, je prends l'exemple, comme l'invité donc vient de dire, je prends l'exemple lorsque une église organise donc le système de baptême. Lors de ce service, il arrive que l'un ou l'une des fidèles puisse tomber dans l'eau, sur tel point que, donc, qu'il trouve donc la mort. Ouais, dans ce cas-là, qui sera responsable donc, et doit-on donc condamner donc, les responsables pour combien d'années? Voilà, merci.
Bien, merci. Un autre auditeur, c'est Flory, il nous appelle de Kinshasa. Bonjour Flory.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je voulais que l'invité nous dise un peu le cas d'un chasseur qui va à la chasse avec son arme pendant la nuit. Il croit peut-être que c'était un animal aussi longtemps que c'était une personne. Et quand il a lancé le feu, il se retrouve après que c'était une personne et la personne est déjà décédée. Comment peut-on appeler ça? C'est encore le meurtre ou bien c'est encore le suicide involontaire?
Bien, merci Flory de Kinshasa. Maître Ruffin, vous avez suivi. Alors, le premier patient, Paul de Kinshasa, nous dit le pasteur amène les fidèles au fleuve pour le service de baptême. Et voilà qu'un fidèle se noie.
J'ai compris sa question et je sais que les auditeurs de Matadi me suivent et de Boma. Ces cas se passent très courant. Je l'ai trouvé, d'ailleurs, je l'ai consacré dans l'aide de mes publications à Matadi.
Qu'est-ce qui s'était passé?
L'église est partie baptiser.
Baptiser les fidèles.
À un certain moment, à Matadi, même, on avait interdit que désormais on ne va plus baptiser dans le fleuve. Parce que le fleuve était devenu un mouroir.
Très dangereux.
Chaque fois, il emportait le pasteur et les fidèles à baptiser. Alors, récemment, n'est-ce pas, un pasteur, n'est-ce pas, a fait, donc, par quelle maladresse la personne a disparu de ses mains. Donc a glissé.
A glissé de ses mains.
La personne est partie d'ailleurs jusqu'à ce que toutes les recherches qu'on a menées, on n'a jamais trouvé le corps. Donc,
s'agit-il d'un homicide involontaire?
Homicide involontaire, bon, évidemment, ça c'est dit parce qu'il y a même noyade, ça entre en ligne de compte, mais les responsables, évidemment, pour la famille ou pour la femme, l'épouse, la veuve ou et consort de ces messieurs qui viennent de disparaître, qui viennent de se noyer, c'est l'église qui doit répondre, et en particulier le pasteur qui était en train de baptiser. Et évidemment, celui-là peut facilement être condamné à un homicide volontaire, en dépit du fait que c'est plus ou moins discutable. Donc, là,
donc,
vous allez vous apprendre.
Il va être coupé de 5 ans.
Bon, le juge est toujours libre de condamner, parce que là, il y a toujours souvent des circonstances atténuantes. Hein,
oui. Parce que le pasteur n'avait pas l'intention, il est venu baptiser.
C'est pourquoi c'est un homicide involontaire.
Oui.
Et c'est puni différemment des homicides avec intention, non la mort. Les autres, là, sont punis de la peine capitale. Mais parce que la personne a tué et qui n'avait pas l'intention de nommer, c'est comme vous étiez en train de vous battre dans un combat de boxe ou de karaté ou de judo et consorts, dans les arts martiaux. Et puis pendant ces combats-là, vous étiez en train de vous battre comme des sportifs. Et puis un coup fatal est sorti et il a attaqué l'autre personne et la personne en est décédée. Mmh. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer. Mais la loi punit l'homicide. La loi punit l'homicide, c'est vrai avec une peine différente, mais vous n'aviez pas l'intention de tuer. Mmh. Eh bien, mais la loi punit cet homicide. Ça, c'est la première question. Donc, évidemment, le pasteur sera poursuivi pour homicide involontaire. Il aurait dû être prudent de considérer que notre fleuve ici n'est pas.
Non, mais s'il l'a toujours fait, il sait qu'il n'y a pas de problème, mais voilà qu'un jour.
Non, mais le fleuve, même si tu le fais souvent, les risques, la prudence, on dit, hein, dans la vie, on ne regrettera jamais d'avoir été prudent. Lorsqu'il vous faut être prudent, faites-le. Il vous faut être prudent, faites-le. Baptiser de l'eau des gens dans le fleuve, je ne crois pas qu'il y a de grandes prudences là-dedans. C'est mieux de louer une piscine ou une petite rivière. Une petite rivière, on comprendrait. Mais le fleuve ici est très dangereux.
Très
moi, j'ai travaillé au bord de ce fleuve ici, je connais ce que ça signifie, que de jouer avec ce fleuve. Il est infernal, c'est vrai, c'est une grande rivière. Alors, il faut faire attention avec. Donc, je considère que celui-là, en ce qui concerne la responsabilité, c'est le pasteur qui est en train de baptiser, qui sera poursuivi, et il risque d'être condamné pour homicide involontaire, donc pas imprudence.
Imprudence. Floride de Kinshasa qui parle d'un chasseur qui vise un animal, un
gibier. Voilà.
Alors, il tire, après avoir tiré, il se rend compte qu'il s'agissait pas d'un gibier, mais d'un homme.
J'informe à Floride.
Et la personne décède.
À Floride, si vous lisez les livres tels qu'ils sont publiés dans nos bibliothèques, ces cas-là, la jurisprudence congolaise, ces cas-là, c'est très courant. Ça s'est passé en Banzangungu, ça s'est passé à Kikwit. Le chasseur qui se trompe de la cible.
Il croit avoir affaire à un gibier.
Il y a même dans les livres de violences sexuelles, quelqu'un qui a vu un chimpanzé. Et le chimpanzé est venu vers lui. Le menaçant comme s'il venait le déchirer.
Un chimpanzé.
Et lui, c'était un ancien combattant. Un chasseur.
Il avait son arme.
Il avait son arme, calibre 12, donc l'arme de chasse.
Voilà.
Et il a ouvert le feu, il a tiré à bout portant sur le chimpanzé. Et lorsque le chimpanzé tâtait par la tête, il a crié. Et maintenant, le chasseur a entendu un cri d'homme. N'a coufié.
Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé?
Le chimpanzé est devenu homme en tombant. Et l'histoire de ce fait-là relate que ce chimpanzé-là, après avoir reçu le coup de feu, s'est encore remis debout et a couru maintenant comme une personne pendant plusieurs mètres.
Là, on ne comprend plus rien.
Non, ça dit, pour dire tout simplement. Non, évidemment, ce sont les faits-là.
Oui.
La justice raconte beaucoup de choses comme ça.
Et la personne, alors là, les juges sont perdus, ils ne savent pas comment.
Et les juges ont acquitté la personne parce que tout simplement, ils ont dit dans le jugement que la loi protège la vie humaine. Dès lors qu'il est établi que la personne qui a été hâtée s'était présentée comme un singe et que le chasseur lui avait vu un singe et que cette allégation-là d'avoir vu un singe n'a été contredite par rien du tout et qu'on présumait que la victime-là qu'on a tuée, utilisait des gris-gris de temps en temps lorsqu'il allait chasser, il s'est transformé lui-même en singe pour capturer les autres gibiers. Et que donc, à l'occasion, il s'était donc transformé. C'est ainsi que les chasseurs l'avaient abattu.
Oui.
On l'a acquitté parce qu'on a considéré que non, lui.
Et ça s'est passé où cette affaire-là?
Ça s'est passé au Gabon, dans la ville, dans la préfecture de Boué. Et c'est publié dans l'un de nos ouvrages sur le viol sexuel. donc, t'as dit, c'est un grand débat, mais pour dire tout simplement que ces cas-là, chez nous, en Bantangongo, ça c'est arrivé, à Kikwit, c'est arrivé, et à Kisangani, dans plusieurs villes où les gens se trompent sur la cible, et, n'est-ce pas, ils tirent.
Croyant viser un gibier, mais on tue une personne humaine.
Donc, mais tout ça, évidemment, les juges qui sont très prudents,
ils vont apprécier.
Non, ils vont d'abord chercher la véritable intention.
Oui.
Par rapport à toutes les allégations de la personne, parce que souvent dans ces cas-là, c'est le chasseur, celle qui parle,
d'accord.
La personne est déjà décédée.
Gisèle Maïmba nous appelle de Kinshasa. Bonjour Gisèle.
Gisèle, bonjour Jeudi.
On vous écoute.
J'ai deux cas à présenter à Maître Ruffin.
Oui.
Il y a une dame qui a laissé ses deux enfants à la maison, et la plus grande est restée avec le bébé. Et à un moment, la petite a commencé à pleurer, la plus grande l'a prise, elle l'a mise dans le... En rentrant, la maman les a cherchés et l'autre, ne savait pas parler. À un moment donné, elle a ouvert le congélateur, elle a trouvé le bébé qui était là, qui était déjà mort. Et un deuxième cas, deux fiancés qui, avant de se marier, leur pasteur dit de faire une neuvaine des jeunes et à un moment, pour savoir si c'est vraiment le couple qui doit se mettre ensemble. À un moment, le monsieur tombe malade et il rentre à l'église, le pasteur qui dit ce sont des attaques. Et la prière devait se terminer à Mangengenge. À un moment, ils sont allés à Mangengenge, le monsieur a fait une crise de malaria, il a commencé à se mordre la langue, les gens l'ont aidé, on l'a emmené à l'hôpital de Saint-Joseph, c'est là qu'il est décédé. Alors, je voudrais savoir dans ce cas, c'est la faute du pasteur ou c'est la faute de sa fiancée qui était là ou c'est sa faute à lui-même, le monsieur? Je voudrais vraiment savoir s'il y a homicide, s'il y a... Je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait.
Bien, merci Gisèle. Maître.
Bon, on commence par cette histoire de Mangengenge. Bon, là, il y a plusieurs fautes. Il y a plusieurs fautes et tout le monde est impliqué là-dedans. C'est pourquoi vous voyez la justice arrêter d'abord tout le monde pour raison d'enquête. Premièrement, il y a là non-assistance à personne en danger. Donc, lorsqu'une personne est alitée par une maladie, le premier devoir de tout le monde qui est aux alentours, c'est de l'aider à l'amener à l'hôpital. Donc, bon, c'est vrai, nous tous nous prions. Mais lorsque la situation donne des allures, n'est-ce pas qu'il faut l'intervention de l'hôpital, il faut amener la personne à l'hôpital. C'est un homicide par imprudence. Ça, c'est arrivé déjà dans les églises, je ne cite pas les noms, les églises qui donnent aux gens beaucoup trop de jours de jeûne, c'est arrivé plusieurs fois. Et la police, il arrête tout le monde. Nous avons vu ça, je me réserve de citer l'église. Mais c'est arrivé plusieurs fois, la personne, on lui a donné de faire 40 jours de jeûne. Et ça l'a emporté.
Mais pour ce monsieur qui est allé mourir à l'hôpital, il avait la malaria, bien qu'il était sur Mangengenge.
Non, mais déjà,
pour
déjà,
la prière.
Déjà.
Là, à ce moment-là, est-ce qu'on parle d'homicide involontaire?
Oui, mais bien sûr, parce que par la personne qui lui a demandé de faire ces jours-là. Et souvent, c'est pris en charge par l'église. Lorsqu'on va à Mangengenge, c'est une organisation, soit l'église qui les amène,
oui,
soit l'église les demande de se rester à la maison.
Le pasteur, donc.
Le pasteur ou la pasteresse, si elle existe, parce qu'il y a des femmes qui sont impliquées dans ces histoires-là, et bien évidemment, j'ai caricaturé en disant pasteresse, tout simplement, pour dire simplement que non, oui, c'est elle qui va répondre.
Devant la justice.
Devant la justice.
Alors, avant de répondre à sa première question, on va accueillir Lauriane Kizamina de Kikuit. Bonjour Lauriane.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
On vous écoute.
Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour, madame.
Oui, la question, je l'avais d'ailleurs postée sur Facebook, c'était celle de savoir s'il existe une différence entre homicide involontaire et légitime défense. Et puis, j'aimerais savoir ce que prévoit la loi comme sanction dans les deux cas. Et il y a autre chose. Je connais quelqu'un qui, dans sa course, avait tamponné un enfant qui est mort sur place. Alors, pour ce cas-là, qu'est-ce que la loi prévoit exactement? Parce que la personne a dû subir des amendes exorbitantes.
Bien, merci Lauriane. Revenons à Gisèle qui nous parle de la maman qui sort, qui laisse la grande fille s'occuper du bébé et le bébé pleurait sûrement et la petite qui en a eu marre est allée mettre le bébé dans le frigo.
Ouais.
Et quand la maman revient, le bébé...
pas dans le frigo, dans le congélateur.
Dans le congélateur. Et la maman revient, c'était
la catastrophe. C'était ouais, trop tard.
Trop tard.
À ce moment-là, il faut poser la question, cette grande avec quel âge? Cette grande sœur avec quel âge? En tout cas, si elle a moins de 18 ans, et en particulier si elle a moins de 12 ans, ce n'est pas la grande sœur. Elle est donc à protéger autant que sa petite sœur. La maman était imprudente de laisser l'enfant entre les mains de l'autre, notamment dans ces conditions-là. Parce qu'évidemment, c'est possible. Vous pouvez laisser la petite sœur entre les mains de l'autre.
Le temps d'aller pas faire courir vite au marché et de revenir.
Bon, vite au marché, à Kinshasa avec les embouteillages, nous savons ce que ça signifie. Vite au marché, si c'est à la boutique, c'est facile.
Oui.
C'est-à-dire, en matière de responsabilité, la loi dit, le code civil congolais, article 258 à 260, que l'on est responsable, nous les parents, nous sommes responsables de tout ce qui arrive aux enfants ou de tout ce que les enfants font. Et on présume que tout ce qui arrivera à l'enfant ou tout ce qu'elle fera à l'enfant, il y a eu défaut d'éducation, de surveillance, n'est-ce pas, et de protection. Que le parent, père et mère, n'ont pas utilisé suffisamment de surveillance ou de protection pour que l'enfant ne puisse pas commettre ça ou pour que la chose arrive
à l'enfant.
Est-ce
que c'est la maman, celle qui sera condamnée ou bien c'est les parents, maman
bon,
et papa?
Le papa, à ce moment-là, lui peut être parti au boulot comme souvent les cas. Et la responsable, là, c'est le papa, c'est la maman elle-même. Le papa va dire quoi?
Parce que cette maman-là devra répondre non seulement devant son mari, mais aussi devant la justice. Il a des instances devant lesquelles.
Mais le papa devrait prendre des dispositions pour avoir une femme de ménage qui va s'occuper des enfants aussi. Sa femme.
Femme de ménage, c'est pas obligatoire. Hein, ça n'est pas de moyens. Femme de ménage, ça n'est pas de moyens. Tous les parents n'ont pas le moyen de.
D'engager une femme de ménage.
C'est le modernisme qui amène les femmes de ménage.
Donc c'est la maman qui va répondre de ses actes devant la justice.
Fait, chez nous en Afrique, au mari, la femme pour assister le mari dans tous les petits travaux et consorts, dans la compagnie du couple. En principe, le mariage ne sous-attend pas une assistante qu'on appelle domestique. Ça, c'est le modernisme. C'est-à-dire, le rôle de l'épouse, c'est être la compagne de son mari en ce qui concerne notamment toutes ces tâches-là.
Mais est-ce qu'on peut condamner les voisins parce que l'enfant était dans le frigo, dans les congélateurs?
Les voisins seront condamnés pour non-assistance à personne à danger. Ces non-assistance à personne à danger a toujours accompagné ces genres d'infractions. N'est-ce pas? Toujours accompagné de ces. Alors, si on peut aller rapidement, c'est lui qui a donné la différence entre homicide involontaire et
homicide. On va d'abord accueillir Rigobert de Kinshasa. Bonjour Rigobert. Rigobert, désolé, il n'est plus en ligne. Berry Franklin Luchaka vient de faire son entrée dans ce studio pour partager avec nous ce que disent les internautes sur la page Facebook de Capi Service. Bonjour Berry.
Bonjour Jody, bonjour Maître Ruffin, bonjour aux auditeurs. Il y a plusieurs réactions sur la page Facebook, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, alors on va lire juste cette question de Benjamin Mouyaya. Il veut savoir si l'avortement est un homicide volontaire et est-ce que c'est punissable par la loi.
Maître Ruffin, on commence par l'avortement. D'abord, l'empoisonnement est inclus, n'est-ce pas? L'empoisonnement est inclus dans les homicides, lorsque vous, n'est-ce pas, vous donnez la mort par empoisonnement, donc par administration.
On prend des produits, des substances pour faire passer la grossesse.
Évidemment, c'est dans les homicides.
Oui.
L'avortement, évidemment, c'est dans les coups et blessures, n'est-ce pas? Et a entraîné, donc, c'est-à-dire, cause de blessure administrée sans intention de donner la mort et qui l'ont pourtant causé. Donc, l'avortement également puni. L'avortement est puni comme une infraction à part entière par la loi et l'avortement, généralement, c'est entre 5 et 20 ans, n'est-ce pas, en ce qui concerne. Et ça, c'est punissable et plus gravement lorsque c'est le médecin qui est poursuivi devant la justice. Donc, l'avortement
donc,
est puni. C'est dans l'ensemble de tout ça parce que l'avortement, évidemment, aboutit par tuer.
Alors,
le fœtus est protégé, n'est-ce pas, quel que soit son âge. Donc, la personne humaine est protégée, quel que soit son âge. Des zéros, n'est-ce pas, jusqu'à. Et lorsqu'on dit des zéros jusqu'à X âge, les zéros, là, c'est avant l'accouchement, ça veut dire dès la conception.
Alors, Lauriane, la question de Lauriane, on va terminer par là. Elle dit quelle est la différence entre l'homicide involontaire et la légitime défense. Oui. Et un monsieur qui renverse un enfant et l'enfant décède.
Lauriane, d'abord, en ce qui concerne la différence entre l'homicide involontaire et la légitime défense, la légitime défense est une cause, n'est-ce pas, de justification. Légitime défense, ça veut dire vous êtes retrouvé face à une menace telle que vous avez l'obligation de repousser la menace. Repousser la menace, ça peut être des bandits vous ont visité la nuit à la maison et vous vous êtes défendu. Vous êtes défendu et
vous avez tué l'un d'entre eux.
Et la loi dit que dans tous ces cas-là de légitime défense, l'on doit vérifier si la menace était imminente et était sérieuse. Ce sont les conditions essentielles. Et ça, ce n'est pas prévu par la loi, c'est prévu par les principes généraux. Et les grands doctrinaires de la finance prévoient que dans les cas de légitime défense, il faut qu'on réalise si la menace était imminente et sérieuse. Et que votre réaction doit être proportionnelle.
D'accord. Rapidement, on va terminer, on n'a plus le temps, maître. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et quand vous renversez un enfant, c'est aussi un homicide involontaire.
Lorsque vous renversez un enfant, c'est très souvent nos élèves, nos écolières sont protégés par la police, par la police de roulage. Eh bien, il faut faire attention. Vous serez toujours poursuivi pour homicide involontaire. Et de temps en temps, les juges commencent même à condamner pour homicide tout court, donc meurtre, parce que vous avez tellement imprudent que toute personne moyenne placée dans les mêmes circonstances aurait dû éviter la chose. Donc,
alors je parlais aussi de la procédure pour saisir les juges. Comment
la procédure, c'est directement d'abord la police. Ça va saisir les juges, la police.
Commencer par la police.
Pour faire les constats et tout ça, il faut faire les constats. Et puis, ça demande de temps en temps, souvent, qu'on fasse également le prélèvement sur le corps pour constater. Et c'est le médecin légiste. Et donc, tout ça, vous saisissez la police saisit le parquet et le parquet, le tribunal. Ou, à défaut de ça, vous prenez un avocat ou un défenseur qui, directement, saisit le tribunal par une citation directe lorsque les faits sont établis.
Maître Ruffin Louko, juriste, chercheur et écrivain, merci. À la prochaine.
Je vous en prie.